Pulsar.
Eh bien, écoutez, une petite recette qui va vite. Moi, j'aime bien les wraps, en fait. Les wraps d'omelette. C'est-à-dire que tortilla classique, une petite omelette battue, et dedans, on arrive à améliorer avec du fromage râpé, de l'effiloché de jambon, des champignons pour mettre un petit peu de légumes. Ça va très, très bien. Et surtout, surtout, une bonne poêle adhésive. Ça, c'est important.
Cuit du cru.
Cuit du cru.
C'est cuit ou c'est cru?
Bonjour à tous, il est à peu près midi, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9, nous sommes le 9 mai dans l'émission Cuit du Cru. Mais Cuit du Cru c'est quoi? Cuit du Cru c'est un rendez-vous bimensuel qui a pour but de mettre en valeur les acteurs de notre département. Du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger, du caviste au brasseur. On va parler de tout, de leur quotidien, de leur métier, des étapes de fabrication à la distribution. Mais aussi à Cuit du Cru, il y a aussi des recettes, des débats, des micro-trottoirs, du local dans votre assiette avant l'heure de la sieste. Aujourd'hui, nous sommes avec Wasabi.
Bonsoir, bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien, c'est vrai que c'est le 9 mai, j'étais un peu en vacances, donc j'ai plus la notion d'heure, donc c'est pour ça que j'ai dit bonsoir. Quoi. Voilà.
Il y a peut-être un beau temps, il fait beau quand même aujourd'hui.
Ah oui, il fait très beau, très beau.
Le printemps arrive, l'été va bientôt arriver, nous avons Christophe Vézien aussi.
Salut à tous!
Chef de cuisine au collège.
Et t'es au Fras Renaudot toujours.
Donc moi aujourd'hui il fait beau, je vais pas quitter le studio, je vais pas partir, je vais te laisser parler de l'invité, de le présenter. C'est à toi Christophe, moi je me mets en stand-by. À toi.
Ok, bon ben voilà, donc aujourd'hui j'ai fait venir un invité qui est responsable de la cuisine centrale du CHU de Poitiers, il s'appelle David Briand. Il va nous expliquer un peu tout son parcours et sa vie au quotidien. Dans sa cuisine centrale. Voilà.
Bah bonjour, merci pour cette invitation. Merci Radio Pulsar, merci Christophe de m'avoir donné cette parole. Quoi vous dire? Ça reste toujours un parcours toujours très atypique de braver de réussite et surtout un grand merci aux échecs. Mais moi je suis cuisinier de métier. Voilà. J'ai tellement agacé mes parents pour arrêter ces lycées hôteliers. À un moment donné, je ne m'y retrouvais plus, je voulais cuisiner, point. Et donc, mon parcours est celui d'un cuisinier qui s'est toujours cherché. Et donc, du CAP cuisine, j'ai fait un BEP, ensuite, hôtellerie-restauration, lycée hôtelier de La Rochelle. J'étais un élève moyen, ça, faut le rappeler quand même, c'est important pour la génération à venir. J'étais pas
un bout en train.
J'étais un bout en train près des radiateurs, surtout. Mais j'étais très moyen, j'étais dans la gestion de l'effort. Et puis ensuite, après le BEP, j'ai fait un BP, un brevet professionnel. J'avais trouvé un patron qui était le Majestic à Châtelaillon-Plage. Et puis j'ai fait mon BP et puis je me suis dit, tiens, en cœur de parcours, je vais tenter le brevet de maîtrise aussi, que j'ai obtenu, qui me permet d'être reconnu artisan. Alors, à quoi ça me sert aujourd'hui? À rien, mais le diplôme est très joli quand même. Et puis ensuite, après avoir vécu pendant 3 ans et demi au Majestic, en cuisine, sans Noël, jour de l'an, sans week-end, sans tout ça, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas continuer un petit peu? Et j'ai poursuivi sur un BTS, hôtellerie-restauration. Et lors de mon BTS, j'ai pu partir travailler 4 mois au Vietnam. Ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce passage au Vietnam m'a vraiment ouvert un petit peu les chakras en me disant, finalement, tu peux être bon pour autre chose que de la cuisine. Donc, BTS en poche, j'ai travaillé pour... j'ai été prof de cuisine en lycée hôtelier. Et puis ensuite, j'ai pas réussi à avoir le PLP2. Comme je vous ai dit, j'étais un élève moyen. Et
le PLP2, c'est quoi?
Le PLP2, c'est ce qui permet d'être enseignant titulaire dans des lycées professionnels. Et puis après, c'était à l'époque des TZR, donc j'ai pas eu de poste et j'ai pris un nouveau métier qui s'appelle la restauration collective pour un employeur qui est Sodexo. Et c'est là que j'ai appris mon métier en maison de retraite.
Et voilà, moi aussi, je sors de la maison Sodexo.
Voilà. En fait, tu sors de la maison de retraite. C'est-à-dire, on peut en sortir de la maison de retraite.
Et j'étais en maison, et j'étais en maison de retraite aussi. Hein. Voilà.
Donc, c'est un message d'espoir pour les vieux qui sont quand même... Non.
Non. Mais ils ne se plaignent pas, hein, vous savez. Et on les nourrit bien. Enfin, dans certaines maisons de retraite. Et puis après ce parcours chez Sodexo, j'ai rencontré l'hôpital, la fonction publique hospitalière, où j'ai géré la restauration de l'hôpital de Saumur dans un premier temps. Et merci beaucoup l'hôpital aussi, parce que à l'hôpital, il existe quelque chose, on n'en parle pas beaucoup. Vous pouvez devenir ce que vous voulez devenir. Donc à un moment donné, si vous êtes motivé et si vous avez un petit peu de courage, eh bien, vous pouvez reprendre vos études. Et c'est ce qui m'est arrivé, où j'ai, à la fierté de ma mère, repris mes études pour passer un Master 2 que j'ai obtenu avec mention. Donc vous voyez, d'un CAP cuisine, oui, on peut passer un Master 2, ça peut arriver.
Le Master 2 en quoi, du coup?
Alors, ça va vous faire sourire. Un Master 2, MIRCES, Master d'ingénierie de restauration collective hospitalière. Bah, c'est un peu barbare, mais en fait, en gros, c'est comment apprendre à gérer une cuisine avec des gros volumes, où certains de mes collègues peuvent envoyer jusqu'à 15 000 repas jour. Donc, ça nécessite pas mal de connaissances en hygiène. On est encore un peu loin de réussir son plat, mais tout s'enchevêtre bien, normalement.
Voilà. Donc tu es arrivé sur Poitiers il y a 10-12 ans à peu près ?
Exactement, donc
moi,
12 ans.
Moi j'étais déjà à la cuisine centrale.
C'est toi qui l'as formé alors ?
Depuis 2 ans, non.
Il m'a accueilli.
Ouais, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et pourquoi Poitiers ?
Pourquoi Poitiers ? Je vais te faire sourire, parce que je ne peux pas te raconter de bobard à toi.
Non.
Parce que j'avais une envie vraiment de travailler avec un monsieur de la restauration collective. Il s'agissait de monsieur Chambon, qui n'était pas vraiment connu pour son accueil et sa bienveillance, mais c'était quand même un grand technicien.
C'était pas un spécialiste de la pédagogie non plus et du relationnel, on va dire.
Non, mais c'était quelqu'un de juste, quelqu'un d'intègre et un grand technicien.
Est-ce que c'est des clichés, vraiment? On dit toujours à l'ancienne, les chefs étaient durs, alors que maintenant, ça a peut-être changé les temps, on est un peu plus cool. Non, moi j'ai vécu même des chefs il y a quelques années, c'était pas facile. Donc, moi j'ai toujours entendu dire à l'ancienne, c'était dur. Il y avait des bagarres dans les cuisines, il y avait des choses qui se passaient.
J'ai envie de répondre en breton, là. C'est un peu la différence entre la brutalité et la violence. Est-ce que c'était dur, mais plus honnête?
Ah, ouais.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, avec la bienveillance, le machin, le ceci, la gentillesse, le machin, enfin, il reste quand même pas moins que notre devoir, c'est de produire et d'expédier. Et donc, ça sert à rien de se dire que c'est le pays des bisounours. Je pense que être dur, ça veut pas dire être injuste, quoi. Après, maintenant, je pense que les générations de chefs qui ont vraiment été durs, qui n'ont pas eu de formation management, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir leurs équipes et ils n'arrivent plus aujourd'hui à recruter.
Donc aujourd'hui, là, à la cuisine centrale du CHU de Poitiers, c'est combien de repas journaliers ? C'est combien d'agents, cuisiniers, chauffeurs, livreurs et tout ça ? Ça représente combien de personnes ?
Tu parles de mes invisibles ?
Ouais, ceux qui travaillent vraiment
dans l'ombre,
nos fourmis. En fait, y a quand même un truc qui a changé, c'est que maintenant on est en groupement hospitalier de territoire, donc on n'est plus que la seule équipe de Poitiers. Il existe aussi Montmorillon, Lusignan, il y a Loudun, il y a Châtellerault. Donc dans mon équipe restauration, on est 158 agents précisément, et sur Poitiers on produit 7000 repas jour. Châtellerault, ils sont à 1600 et Loudun produit 320 repas jour. Lusignan et Montmorillon récupèrent, ce sont maintenant des offices relais plateau, récupèrent la production pour remettre en plateau et, je précise, à l'assiette.
Et tu sais qu'aujourd'hui, encore de nombreuses personnes pensent que les plats arrivent tout prêts et que c'est pas cuisiné sur place.
C'est vrai, tu as raison Christophe. Après, on n'a jamais été les pros du marketing, hein. Parler de ce qu'on fait, j'ai commencé par dire qu'on était des invisibles quand même. Hein. Maintenant, quand on vient près de la cuisine centrale de Beaubaton, c'est-à-dire pas loin du Carrefour Contact, route de Noyers-Maupertuis, eh ben, ça sent la cuisine. Hein. Donc, si on écoute nos chefs de cuisine, Stéphane, Emeric, Grégory, Michael, je les connais tous, et si on leur parle de cuisine, ils vont vous dire que j'ai perdu le nom, tu vas m'aider Christophe. La poêlée de légumes méridionale, eh bien, elle est fraîche. La ratatouille maison, tu t'en souviens?
Ouais, nous, à l'époque, la poêlée méridionale, elle arrivait de chez GDA. Pas maintenant, mal. Elle arrive directement frais et tout ça.
Ouais, courgette, elle a un coût, hein, mais qu'est-ce qu'elle est bonne.
Ouais. Vous avez le matériel pour faire de la bonne cuisine?
On a vraiment tout le matériel pour faire de la bonne cuisine.
Ça représente combien à peu près?
Tu veux dire je vais te parler en espace mètre carré, la cuisine elle fait 3300 mètres carrés.
Ça représente un budget énorme.
D'investissement matériel?
Ouais.
C'est quasiment 350 000 euros par an pour acheter du matériel. Mais je veux dire, si t'as pas de matériel aujourd'hui en restauration collective, il te faut des bras quoi. Et il y a encore plus inépuisable que l'euro sonnant et trébuchant, c'est la compétence et les agents. Je pense que on aura plus d'aisance à acheter une marmite ou une sauteuse qu'à trouver un super cuisinier. Voilà.
Ouais, je confirme. Hein. C'est très compliqué, même nous en collège, de recruter actuellement. Ce qui est pour moi incompréhensible. Parce qu'on a quand même des avantages au niveau des... Il ne faut pas se voiler la face. Hein, au niveau des conditions de travail, au niveau des horaires. Donc, non, je confirme ce que David B. C'est compliqué pour recruter. Ouais.
Il y a quand même, c'est vrai, de la bonne cuisine, joie dans les collèges et tout, et on a toujours les clichés, à l'hôpital, ouais, c'est des barquettes, raviolis en boîte, voilà, salade en poche, vinaigrette en tube,
ces clichés sont peut-être un peu fondés, malgré tout, non?
Alors, ils sont pas fondés. Là, je vais vraiment me mettre en colère, monsieur Wasabi. Ils sont pas fondés. Mais une purée de pommes de terre maison, les gars, avec un jambon label rouge, quand même, c'est autre chose. On peut prendre du plaisir avec une cuisine simple.
Bien sûr.
Maintenant, si on refait un peu d'historique, quand est-ce qu'est née la restauration collective? Allez, en 63. Par qui? On vient de le citer, Sodexo. Jean-Pierre Belon, je crois. Pierre Belon, excusez-moi. Ouais. Paix à son âme, il est décédé. Mais en fait, la restauration collective, elle est née en 63. Et vous savez comment? Par la restauration carcérale. Regardez, je vous fais le schéma, même si on a la radio. Donc à un moment donné, en fait, pourquoi on a cette image-là? Parce qu'on vient d'un métier qu'on a appelé restauration collective, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui, tu veux dire que ce cliché était peut-être vrai avant, mais qu'il est en train de s'estomper parce qu'il y a du progrès finalement.
Bien sûr, il y a un énorme progrès, il y a un travail qui est fait, je ne peux pas citer tous les projets qu'il y a en ce moment, que l'on mène avec l'ensemble de l'équipe, et un grand big up aussi à mon adjoint Sébastien Coindeau et Amélie Fumelot et Aline Métivier, je pourrais tous les citer, David Gachet, qui aujourd'hui m'aident justement à pouvoir me projeter vers l'avant, mais on essaye vraiment... de faire à manger du 1er janvier au 31-12 et qu'à un moment donné ça soit bon. Est-ce qu'on y arrive? Non, pas tous les jours. Pourquoi? Et parce qu'on a mille peines. On a mille peines aujourd'hui à lutter contre nos 16% d'absentéisme. On a mille peines à essayer d'obtenir et d'avoir des produits locaux qui sentent bon le terroir et qui à un moment donné nous apportent toute cette plus-value. C'est très compliqué aujourd'hui de gérer de la restauration collective.
Tu parles de produits locaux actuellement. Dans les menus du CHU, le pourcentage de produits locaux est de combien à peu près?
Alors je vais éviter de te mentir. Quand on dit produits locaux, je ne vais pas parler de produits locaux, je vais parler de produits labellisés type Egalim, la loi Egalim qui, je le rappelle, nous impose de mettre ou d'acheter 50% de nos produits labellisés, dont 20% de bio. On en est encore loin. On doit être à 12%, dont 2% de bio.
Et ça, c'est... Alors, moi, je vois tous les jours au niveau de mon collège, nous, actuellement, on est à peu près à 70%, tout confondu, labels et locaux.
Bravo.
Qu'est-ce qui vous empêche de respecter tout ça? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Explique un peu...
Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller? Ah, tu l'avais préparé, ta question. plein de choses. Aujourd'hui, l'absentéisme beaucoup, la recherche de compétences, le manque à gagner ne se situe pas que au service de restauration. Pour pouvoir faire ce travail-là, il faut une stratégie. Voilà, il faut avoir l'envie aussi d'aller démarcher des producteurs. Voilà, l'envie, elle est présente au CHU. On a une directrice générale qui reconnaît la loi Egalim et qui nous aide là-dedans. Maintenant. pour que ça marche, il faut avoir une équipe, un binôme, avec un acheteur, voilà, de profession, un acheteur qui est motivé pour y aller. Donc ça veut dire que ça implique aussi un service achat structuré et autre. On a aussi beaucoup de mal sur le service achat à recruter un coordonnateur achat en ce moment, des acheteurs de métier. Voilà, c'est, je pense que pour réussir ce challenge-là, c'est un acheteur et un bon technicien de la restauration.
Ah, tu sais, alors, tu sais qu'actuellement, au niveau national, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme AgriLocal. Nous, on en a une sur la Vienne, qui permet de mettre les producteurs locaux et les acheteurs directs. Est-ce que c'est par un manque de connaissances ou autre chose qui ne permet pas ce service achat à aller sur cette plateforme?
Non, parce que AgriLocal, je connais, là, il y a aussi Resalis plus près de Niort. D'ailleurs, on vient de, c'est marrant que tu parles d'AgriLocal, on vient d'acheter, on achète notre miel maintenant depuis hier à AgriLocal pour un fournisseur de Poitou-Charentes. Donc, je sais que AgriLocal existe. Maintenant, on est vraiment purement dans des marchés publics. Quand on cuisine de la viande par service, on est à 450 kilos aujourd'hui, 400 kilos. Donc, c'est pareil. On fait face aussi à... Il faut une structure très forte. On ne peut pas acheter en Kanban comme ça. Il faut qu'on prévoie nos achats sur l'année, comme ce que tu fais très bien. Mais c'est que quand je commande uniquement pour Poitiers, on est à 400 kilos, quoi.
Ouais, donc... Donc oui, le problème pourrait être qu'un même fournisseur ne pourrait pas vous les donner volumes. La capacité du volume.
Bien sûr. Ouais. On a eu ce problème avec le palon, il n'y a que 2 palons par bête. Quand on cuisine du palon et qu'on doit réunir 400 kg de palon divisé par 2,5 kg, tu vois un peu le nombre. Donc c'est en fait, là aujourd'hui, les marchés publics, clairement, c'est une plaie pour nous. On n'a pas le choix aujourd'hui que de les suivre, mais c'est respecter le marché public aujourd'hui, c'est la mort. Bien sûr que nous, en cuisine centrale, on voudrait cuisiner du français. Ça a de la valeur, du bleu blanc cœur, du label rouge. C'est génial pour nous et les cuisiniers. Mais à un moment donné, dans le marché public, on n'a pas le droit de dire français et il faut acheter de l'européen. Super. Entre une viande de Pologne et d'Espagne et une viande française, j'hésite pas du tout. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une spécificité, parce que c'est dans un hôpital, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène plus drastiques ou des choses liées simplement au traitement que peuvent avoir les patients?
Effectivement, mes clients sont déjà malades. Le but, ce n'est pas de les rendre encore plus malades. Un peu d'humour, ça ne se verra pas. Mais oui, je dis souvent que ma restauration doit être saine avant d'être bonne. Soyez pas choqués.
Avant de passer à la recette de la semaine... J'ai envie de te poser une question. Est-ce que toi, tu as une fierté depuis que tu es arrivé au CHU de Poitiers? Est-ce qu'il y a une fierté? Tu es fier de faire ce que tu fais? Ou des fois, la routine fait que tu aimerais bien aller ailleurs, peut-être?
Ouais, je suis fier d'être responsable du service de restauration. Je suis fier de mon équipe aussi.
Tu as fait évoluer les choses?
Oui. Je pense avoir fait évoluer les choses. Je suis fier d'avoir remis du potage maison. Je suis fier d'avoir retravaillé avec l'équipe, parce que sans l'équipe, je suis que dalle. Je fais rien du tout. D'avoir remis de la cuisson de viande de nuit, en cuisson de nuit, de refaire des laitages, venez manger notre semoule au lait bleu blanc cœur, elle est formidable. Voilà, c'est des choses très, 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 très simples pour le profane, ça peut même être un peu naïf, mais c'est très compliqué de remettre des productions maison aujourd'hui dans des volumes comme le mien, et rien que ça me met en joie, quoi.
Merci à toi,
merci.
C'est fin de la première partie, on va passer
comment
à la recette de la semaine.
Blanquette.
Elle est bonne.
Pusard. Allez, petite recette pour un petit goûter sympa. Un petit pain ou un petit bout de brioche perdu. On a souvent un petit bout de pain ou un petit truc qui traîne dans le placard, qui commence à être rassis. Vous mettez 20 centilitres de lait dans une assiette, vous cassez 2 œufs dedans, 60 grammes de sucre. Vous battez tout ça ensemble. Vous mettez votre tranche de pain ou de brioche dedans, bien imbibée. Une poêle bien chaude avec du beurre comme il faut. Vous laissez bien un peu colorer et vous dégustez ça encore tout chaud. Et bon appétit.
Magnifique.
Pusard. Et toi, tu cuisines un peu?
Oui, moi je fais le verre d'eau maison à base d'eau du robinet.
Les étoiles en plus.
Et vous êtes sur Cuit du Cru. En fait, on n'est pas très loin de la fin de l'émission, mais pas très près non plus. Donc, nous sommes avec David, ingénieur, responsable de la cuisine du CHU, du groupement hospitalier de Vienne. Et c'est l'heure un petit peu de la question piège qui va être un petit peu particulière cette fois-ci. Alors, David, tu dis que la restauration collective n'est plus ce qu'elle était, mais je vais te faire passer un extrait d'un film connu des années 70, de 73, L'aile ou la cuisse. Et tu vas nous dire ce que ça t'inspire et si tu te retrouves là-dedans et si tu es peut-être toi-même, disons, responsable de ce qui est dit dans ce dialogue.
C'est quoi ça ?
C'est du bœuf.
Et ça a du goût ?
Oui, ça a un goût de bœuf.
Ça, c'est du haricot vert. Oui.
Hein ? Ça a du goût ?
Ben oui, ça a un goût d'haricot vert.
Oh. Oui.
Monsieur le directeur, ça y est, je l'ai retrouvé.
Ah ! Eh ben, c'est pas trop tôt. Où est-il ?
Il est dans une clinique.
Dans une clinique ? Mais qu'est-ce qu'il fout dans une clinique ?
Il se fait soigner, monsieur le directeur.
Mais soigner de quoi ?
Ben ça, je sais pas, monsieur.
Je connais parfaitement tous ces plats. Je sais d'où ils viennent. Je les ai goûtés des dizaines de fois. Alors, tu vas me faire goûter un de ces plats au hasard. Tu ne me dis rien ! Alors, Gérard, j'ai perdu le goût.
Oh.
Je n'ai plus la notion de saveur. J'ai l'impression de mastiquer du coton et de boire de l'eau. Souviens-toi, je pouvais reconnaître tous les ingrédients d'un plat. Maintenant, plus rien.
Mais qu'est-ce que vous lui avez fait comme piqûre ?
C'est prévu, docteur.
C'est dramatique, docteur. J'ai perdu le goût. Je prends du poisson, je ne sens rien. De la viande, c'est pareil, rien. Le vin, c'est de l'eau. Qu'est-ce que j'ai, docteur ? Je vous en prie, dites-le-moi.
Un gueusim.
Qui c'est ça ?
Un privatif du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Et alors ?
Eh ben, ça peut être très long.
C'est dramatique, docteur.
Mais non, nous allons vous soigner énergiquement.
Cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate.
C'est fou, ça, hein ?
Mais c'est infect. C'est absolument innommable. Ils ont voulu m'empoisonner. C'est pas de la nourriture.
Exact. Ces produits viennent de chez vous. Et des millions de personnes les consomment chaque jour.
Hein ?
C'est pas ça, quand même, chez toi.
très bonne question. Non, je pense pas que ce soit ça. Est-ce qu'on est irréprochable du 1er janvier au 31-12 pour des clients, je rappelle, captifs qui viennent se faire opérer ? Du coup, en termes d'environnement et en termes de perception, il y a déjà des choses qui changent, puisque on se souvient quand même tous que des bons moments et des bons repas de famille. J'ai envie de parler d'environnement. Alors, non, c'est pas ça. Moi, la semaine dernière, j'ai eu du plaisir à manger un hachis parmentier qui était fait avec du bœuf frais. J'ai eu du plaisir à manger une tartiflette. J'ai félicité mes gars. J'ai pris du plaisir. Est-ce qu'à un moment donné, je prends du plaisir tout le temps ? Non. Je vais être très franc avec vous. Il y a des fois aussi des produits qui passent pas et pour lesquels il faut absolument qu'on les sorte de l'offre alimentaire. Non, si je suis là et si on est tous là pour parler de la Restoco, c'est qu'on sait très bien qu'on est capable de faire de la bonne restauration collective. Maintenant, moi, aujourd'hui, à mon niveau, c'est pas forcément la technique, c'est d'être capable de convaincre qu'on est capable de produire, mais aussi d'acheter. Il faut faire confiance aussi à son service de restauration pour justement redonner du plaisir et... Et la dernière chose que j'ai envie de dire aussi là-dessus, c'est que on suit toujours tous aujourd'hui quelque chose d'Hippocrate et pas d'hypocrite, mais que la nourriture soit ton remède, quoi. On sait qu'on participe aussi et on veut y croire à la guérison du malade.
Tu nous disais avant l'émission que il y avait des que tu allais mettre fin au micro-ondes, je crois, quelque chose que...
Oui.
Ou quelque chose d'approchant, que aussi le plastique était en train de disparaître aussi, parce qu'on connaît les barquettes plastiques qui passent au micro-ondes.
Oui. Oui, ça c'est une fierté. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler sur un projet où justement on travaille plus sur l'environnement, parce que nous, cuisiniers, en fait, on a tout misé pendant des années sur la réussite du plat,
Le choix aussi des produits, la bonne technique, braiser, sauter, poêler, on se souvient des cours. Mais en fait, il faut savoir quand même que 80% de la qualité perçue par un patient, c'est son environnement. Donc si à un moment donné, la blanquette est la plus merveilleuse du monde, dans un lit d'hôpital, avec un veau qui va être bio, en fait, l'accueil n'a pas été fait, s'il n'y a pas eu un bonjour, bon appétit, on vous présente ça, et qu'on pose le plateau avec des barquettes thermocellées à quelqu'un qui a les deux bras dans le plâtre et qui ne pourra pas désoperculer sa barquette, le plat il va être dégueulasse quoi, à la fin. Donc nous, on travaille l'environnement et moi, je suis hyper motivé aujourd'hui, hyper heureux de pouvoir recréer des espaces de restauration où on va remettre en assiette avec les services de soins et en même temps aussi redonner un petit peu de temps aux soins et alléger un peu leur travail au niveau des actes de vaisselle, de petit déjeuner et donc d'allotissement plateau.
Allez, dernière question. En quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire changer la vision des gens sur la cuisine des hôpitaux ?
Sortir. C'est-à-dire se sortir soi-même, montrer qu'on est aussi, que la partie marketing et mercatique de la restauration collective, c'est nous, et c'est ce pourquoi on est là d'ailleurs, et faire sortir les équipes. Parce que moi, j'ai une anecdote, on a quand même réussi à restaurer le président de la République en 2017, sur un repas complètement local, avec l'intendance de l'Élysée, avec le maître d'hôtel de l'Élysée, tout ça servi avec des élèves du lycée Kyoto, et qu'en même temps, on avait pu, à l'hôpital, organiser 600 personnes en cocktail avec les barnums de chez Mathieu Location. Et ben voilà, si on est capable de faire ça, et si à cette époque, ça reste un super souvenir, une fierté, c'est parce que le talent, il est dans nos cuisines, faut simplement savoir le révéler, quoi.
Écoute, j'ai envie de te dire merci à toi.
Merci à vous.
Et je vais venir en sous-marin, je vais me péter une jambe, je vais faire exprès péter une jambe pour rester quelques temps là-bas et pour goûter la nourriture.
Appelle-moi et passe et on mangera ensemble, ce sera mieux.
En tout cas, je te remercie.
Merci à vous.
Christophe.
Ciao, à tous.
Merci.
À bientôt.
Ah, dans deux semaines, c'est qui le prochain invité ou
peut-être l'invité, prochain invité, Christophe, peut-être.
Alors, je vous annonce, le prochain invité, c'est quelqu'un que je connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui a eu toute une histoire sur son existence. Et c'est un jeune chef très prometteur.
Alors, donc c'est dans deux semaines, et la semaine prochaine c'est Zazou. Voilà. Restez sur Radio Pulsar 95.9.
Allez, bonne sieste.
Cuit du cru. Pulsar.